Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Club.
Go.
Go.
Bonsoir et go pour Côté Club. Bienvenue à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Côté Club, votre rendez-vous quotidien avec le meilleur de la scène française au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Ce soir, gros plan sur une année 1998, sur un album français qui a enflammé l'Angleterre et le reste du monde et qui a fait basculer deux Versaillais dans une autre dimension. Et c'est vous, Jean-Benoît Dunkel et Nicolas Godin, le duo R. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous remontez sur scène pour fêter les 25 ans de Moon Safari, votre premier album, un contre-pied down-tempo à la Britpop de l'époque. Sur scène, vous le reprendrez dans l'ordre de La Femme d'Argent au Voyage de Pénélope. Et c'est un anniversaire qui en cache un autre, les 20 ans de la sortie de Tokiwoki, quatrième album solaire dans la lignée de ce Moon Safari. Marion ?
Que se passait-il au niveau musical dans l'Hexagone en 1998, année de la sortie de Moon Safari ? La réponse est vers 22h30 dans cette année-là.
Voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture Sapon, c'est un mot valise pour Japon et savon. Le savon est une passion pour Flavien Berger qui vend ses savons fabrication homemade à la fin de ses concerts.
J'en ai eu un.
C'est vrai ?
Oui.
Vous l'avez payé ?
Non, ça va pas, il me l'a offert.
Très bien. Sapon donc, sur France Inter. Signé Flavien Berger, je vous ai vu très attentif, les yeux fermés même, Nicolas Godin alors.
J'écoutais un peu tout, la compo, la prod, les textes.
Vous avez tout décortiqué.
Ouais, voilà, c'est un peu ma maladie.
C'est vrai.
C'est fatigant d'écouter de la musique pour moi, même C'est-à-dire si on est en train de se parler avec un dîner et que tout d'un coup il y a de la musique, j'écoute. À l'époque, même quand j'écoutais la radio, quand j'étais même enfant, je comprenais pas les... J'essayais de comprendre comment le... ce qu'il y avait dans la chanson, quoi. Et il y avait des choses que je comprenais pas, notamment... Je connaissais les instruments parce qu'on les avait appris quand on est jeune, la trompette, la batterie, le, je veux dire, ce que c'est qu'un instrument. Et dans les années 70, il y avait le Fender Rhodes partout. Ça, moi, on m'avait pas appris à l'école ce que c'était qu'un Fender Rhodes. Je savais ce que c'était qu'une guitare, électrique, un harmonica.
Bien sûr, ouais.
Et ça me perturbait, ce son. Je comprends pas, mais c'est quoi ça? Alors, c'était, à un moment, j'ai vaguement cru que c'était un vibraphone. Et le jour où j'ai mis mes doigts sur un Rhodes, j'ai compris que tout ce, ce son, je n'arrivais pas à conceptualiser dans ma tête, j'ai compris que c'était ça, et c'est une révélation un peu, voilà, que j'en ai acheté un du coup, et je me suis mis à faire de la musique dessus.
Vous avez le même rapport à la musique pour vous aussi, Jean-Benoît Dunkel?
Ouais, j'ai toujours une oreille qui traîne, mais c'est même, c'est parfois très dérangeant, parce que, en fait, le problème, c'est que on écoute tout, et surtout, parfois, la musique qu'on n'aime pas, en fait, surtout les musiques cycliques qui sont en boucle, et dont l'attention, en fait, est dérangeante. Ben en fait ça fait mal, c'est-à-dire on atteint un set de douleur émotionnelle en fait. Voilà, c'est vrai que ça peut être très très douloureux.
Nicolas Gaudin et Jean-Benoît Dunkel, le duo R, sont les invités côté club ce soir, avec un double anniversaire, donc les 25 ans de votre premier album, Moon Safari, et puis les 20 ans de Tokiwoki, le quatrième album, mais chaque chose en son temps. D'abord et avant tout, les 25 ans de Moon Safari, premier album que vous reprenez sur scène. Moon Safari, sorti événement en janvier 98, un album à contre-courant de tout ce qu'on entendait à l'époque, un choc en Angleterre qui vibrait au son de la Britpop, un album court, 43 minutes, où l'on entend du vocodeur, du theremin, des instruments vintage, avec une ouverture planante de 7 minutes, des envolées de Moog, bref, un son extraterrestre, psychédélique, qui a marqué dès sa sortie l'histoire de la French Touch et au-delà. On va revenir sur votre duo versaillais, mais d'abord les concerts. Vous remontez sur scène pour le 25e anniversaire, et je lisais dans Les Un Rock, qui vous consacre un excellent article d'ailleurs, un excellent entretien, que l'idée vous taraude depuis 10 ans. 10 ans que vous êtes taraudé par cette idée de remonter sur scène avec des titres.
En fait, on a conçu ces albums comme une pièce de théâtre ou comme un concerto ou comme une symphonie, je sais pas. Enfin, c'était, il y a un début, un milieu, une fin. On a fait beaucoup d'attention à la narration, à l'ordre du track listing. J'ai toujours pensé que ces disques pouvaient être joués comme lorsqu'on va voir une offre de théâtre ou dans leur intégralité.
Ou un concert classique.
Voilà. Ouais. Et souvent, il y avait un petit côté quand même un peu peut-être trop. C'est des choses qu'on fait plus tard dans sa carrière, et donc on était peut-être un peu trop jeune pour faire ça dès le début, alors que c'est vraiment ces disques, c'est, pour moi, c'est des, comme un livre ou comme un roman, c'est des disques qui existent par eux-mêmes. Et ensuite, il y a eu nous, on a toujours fait des concerts, on a toujours fait des tournées, tous les 2-3 ans, en général, tous les 3 ans. Et là, quand on a fait notre dernière tournée, et ensuite, au moment de repartir, il y a eu le Covid. Les concerts se sont arrêtés, quoi, je sais pas, un an, un truc comme ça. Et quand on a voulu reprendre, il y avait, trop de groupes qui tournaient, on s'était dit on va attendre un peu. Donc en fait, mine de rien, le dernier concert qu'on a fait, c'était en 2018. Et donc là, c'est vrai que on est en 2024, ça fait 6 ans qu'on n'a pas foulé une scène. Voilà, donc, et on a senti que pour le coup, c'était le moment de. On était légitime pour pouvoir rejouer nos albums tels qu'ils ont été conçus. Il y avait eu d'autres groupes qui ont fait ça.
Bien sûr.
Même des artistes qu'on adorait, comme Lou Reed, quand il jouait ses albums. Et Pink Floyd le fait. Et c'est ça.
Qu'est-ce que vous vouliez alors raconter, donc, depuis le premier titre, La Femme d'Argent, jusqu'au voyage de Pénélope? Quelle était la dramaturgie, le récit de ce premier album, Jean-Benoît?
Je pense que c'est un album très enfantin. Parce que lorsqu'on l'a fait, c'était un petit peu, il est chargé de nos influences enfantines. C'est-à-dire, dedans, il y a un peu de Barbapapa, il y a un peu d'émissions de télé qu'on regardait quand on était petit. Il y a toute notre culture, quelque part, qui se mélange. On dit souvent que le premier album, c'est, on le fait avec toute sa vie, et c'est vrai. Il y a un peu toute notre vie dedans. Tandis qu'après, en fait, on bascule dans autre chose. C'est des albums, qui sont faits, enfin, sur le moment, mais qui sont plus expérimentaux quelque part. Donc finalement, peut-être qu'ils racontent notre bien-être de notre enfance lorsqu'on était heureux.
Vous ne l'avez plus été après? Vous êtes nostalgique de cette enfance?
On a eu une enfance, en fait, assez heureuse. Une adolescence, je parle pour moi, tourmentée, en fait, je pense. Et donc, du coup, c'est ça. C'est un peu un retour sur l'enfance. Mais moi, j'étais toujours très heureux dans ma vie. Mais c'est surtout l'insouciance. En fait, dans Moon Safari, il y a une insouciance comme ça, qui plane tout le temps.
Une innocence, une fois que vous faites votre carrière, tout le défi, c'est de garder cette innocence vivace. Et lorsqu'on rentre en studio pour faire un disque, il faut tout laisser derrière la porte et ne pas penser aux conséquences. Retrouver cette forme primitive d'innocence qui est très, dont Moon Safari est très imprégnée.
Alors on va suivre votre ordre, l'ordre du concert. La Femme d'Argent, premier titre. Femme d'Argent, une ouverture instrumentale de 7 minutes. Alors déjà, c'était un signe, un format qui explose le format pop. Ça vous permettait quoi, cette durée, dès le début, Nicolas Godin ?
Alors, techniquement, je ne voyais pas comment on pouvait mettre le morceau ailleurs si on ne le mettait pas au début. Parce que moi, j'ai été très influencé par... justement, Jean-Benoît parlait de notre enfance. Et avant d'acheter des disques, avant d'acheter de la musique pop dont tu parles, on regardait la télé et moi j'étais beaucoup plus influencé par la musique de film, la musique de dessin animé, la musique... c'était normal que quand j'ai fait mon premier disque, c'était mes premières influences. Après, quand je suis devenu ado, j'ai commencé à acheter du rock, de la pop, mais je comprends pas pourquoi... Moi, c'était ça mon influence, c'était la musique sur laquelle j'ai compris les choses, c'était de la musique instrumentale des années 70, voilà, donc c'est mon influence majeure pour moi.
Est-ce que ça a été facile à imposer au label, cette ouverture?
Non, j'ai beaucoup souffert, mais c'est vrai en plus.
Moi, j'imagine. Mais...
En fait, je savais qu'il fallait commencer le disque par ça, et à un moment, vous avez l'impression que les gens vous prennent pour un fou.
Ils auraient voulu
et en fait, c'est dur de, dans la musique d'imposer ses idées contre tout le monde parfois, alors que c'est compliqué. Ouais.
Donc vous avez tenu le coup alors.
Ouais. Il y a ça et sur d'autres choses aussi. Ouais.
Quelles choses par exemple?
Non, des choses dont je parlerai pas, mais des choses qui ont été dures à imposer. Et notre force, c'était qu'on venait du home studio, donc on a toujours fait de la musique. On n'a pas été broyé par le système, on a toujours une grande liberté parce que c'était nous qui faisions notre musique dans notre chambre à la base. Et ça a permis toute une génération d'artistes. Cette génération, nous sommes arrivés avec des premiers albums assez puissants. Je pense aux autres artistes de notre génération comme Daft Punk ou Massive Attack. Mais c'est parce qu'on a eu le temps de faire les choses chez nous tranquillement et au moment où nous étions au point, le disque se faisait et le disque sortait. Donc c'était notre force, c'était cette indépendance en fait de confection de disques.
Alors je lisais aussi, mais il y a bien longtemps, que ce morceau, donc La Femme d'Argent, aurait été inspiré par ce titre-là. Alors, légende urbaine ou pas, le morceau c'est Executive Party Dance sur la BO du film Rollerball de 1975.
Ouais. Ah oui,
rapport.
Rollerball, André Prévin. C'est pas ce morceau-là qu'on a, parce qu'on l'avait mis, on avait mis un morceau de André Prévin sur les Deck Safari, cette espèce de programme qu'on avait fait pour une radio. Effectivement, mais c'est pas ce morceau-là du tout.
Ah, c'est pas ce morceau-là.
Non, parce qu'en plus ça c'est un blues. Non, on n'est pas trop blues.
Bah non, manifestement c'est pour ça que j'étais. Je vous dis légende urbaine ou pas.
Par contre, il y a un MOOC dessus. Alors effectivement, à la fin de la fin de Margent, on a remis au goût du jour les solos de MOOC, les choses comme ça. Et comme Rollerball, il y avait ce côté rétro-futuriste aussi.
Et voilà, c'est pour ça. Ouais.
Et nous, en fait, dans les années 70, il y a eu beaucoup de films qui imaginaient le futur dans les années 2000. Et ça, on a grandi un peu avec cette ambiance. Donc c'est vrai que le son de MOOC comme ça, c'est associé au rétrofuturisme qui marque beaucoup Moon Safari. Mais cette BO, il y a une scène au moment où ils sont dans une soirée, ils dansent un des slows, ils ont le front, la manière de danser à l'époque, ils se mettent le front contre le front les uns sur les autres. Et il y avait un morceau, une espèce de slow avec un solo de MOOC qu'on avait adoré à l'époque.
En concert, quels étaient les morceaux de ce premier album que vous jouiez?
Les tubes.
Là, voilà. Donc, Sexy Boy,
Kelly Watch the Stars, et aussi La Femme d'Argent, à la fin, parce qu'il a, il explose de façon orgasmique à la fin. Et on ne pouvait pas jouer en fait, des morceaux qui étaient chantés par Babes Hirsch.
Eh oui, bien sûr.
Et puis sur ce matin-là non plus, parce qu'on n'avait pas de, de section de cuivre pour le tuba. Alors qu'en fait, on pourrait le jouer, parce que là, cette tournée, on le joue, mais avec, on fait au Moog les mélodies de tuba, et c'est encore plus dans l'esprit de ce qu'on imaginait quand on l'avait conçu.
Et pour la voix donc, de Bess, comment vous allez faire en concert?
Vous allez voir, on a notre petit secret.
Un petit secret?
Ouais.
C'est vous? C'est vous le secret?
Oui, c'est nous le secret.
D'accord.
Mais je crois que les versions sont quand même assez réussies. Au début, moi j'étais comme vous, je croyais pas trop.
Et en fait, j'ai pas dit que j'y croyais pas.
Non, mais j'y croyais pas trop. Et puis en fait, on a finalement le corps du morceau tient et les mélodies sont là et ça va, c'est bien.
Remember Moon Safari, je vous propose d'entrer dans le cœur du sujet en écoutant Kelly Watch the Stars. Kelly Watch the Stars, une chanson en hommage à Jacqueline Smith. C'était la Kelly de Charlie's Angel, la série Drôle de Dame. C'était quoi, un souvenir d'enfance? Un fantasme sexuel que vous aviez en commun? Les garçons, Nicolas Gaudin.
Fantasme d'enfant.
Pourquoi pas?
Vous connaissez Jean-Benoît.
C'est pas que les barbes à papa. Ouais.
C'est un album qui est lié à notre enfance dans les années 70. Alors, c'est nous devant la télé pendant pas mal de temps. Moi, j'étais toujours fourré devant la télé. Alors, je dis ça aux futurs parents. Moi, ça peut être un problème.
J'adorais ça.
Je me sens assez cultivé, capable de m'exprimer dans un français correct. Et du coup, ça m'a plutôt appris plein de choses. Et c'est vrai que, notamment cette vision de la Californie, qui nous a beaucoup attiré quand on est allé ensuite à Los Angeles, notamment pour tourner ce clip de Kelly Watch the Stars. C'était incroyable parce que nous étions dans la télé, en fait. C'était après avoir grandi en banlieue parisienne, dans un paysage et une mentalité qui n'a rien à voir. On s'est retrouvés à Hollywood, exactement comme dans un feuilleton de Charlie's Angels ou Columbo, je sais pas. Enfin voilà, c'était fou, Starsky Hutch.
Oui.
Jean-Benoît Dunkel.
Pour moi, Jacqueline Smith, elle représentait évidemment la femme sublime. Et surtout, en fait, quand j'ai des petits, donc quand je voyais ça, je me disais, mais c'est super, parce que quand je vais être grand, la vie va être fantastique. Je vais être beau, je vais pouvoir rencontrer des femmes comme ça, et tout ça, je vais avoir une voiture, et ce sera fantastique. Et c'est vrai que la différence avec quand tu passes un certain cap au niveau de l'âge, c'est que cet avenir, en fait, n'est plus possible. Voilà, le futur se rétrécit, quoi, quelque part. Donc du coup, c'était vraiment un fantasme qui est véhiculé encore dans cette chanson.
C'était problématique parce qu'on avait cette culture européenne très forte et on avait ce fantasme de Los Angeles très fort et on n'a jamais su faire cohabiter les deux ensemble. On l'a fait artistiquement, mais humainement, on s'est toujours demandé si on devait vivre là-bas ou si on devait vivre à
Paris. Vous y avez pensé ?
Bah ouais, parce que c'était un tel... On a grandi devant ces émissions de télé, en fait, et surtout par rapport à la musique, par exemple, ça rappelle le sud de la France, mais si ton Moog est cassé, tu peux le faire réparer, tu vois, c'est assez génial, il y a les plus grands studios du monde, il y avait tous nos fantasmes, justement, ce matin-là, sur Moon Safari, c'était un hommage à Burt Bacharach. Et donc, il y avait vraiment ce côté californien très, très exacerbé, beaucoup plus que New York. Et Londres, qui était plus lié aux années 60, Londres, alors que nous étions des enfants des années 70, c'était vraiment la Californie, quoi, le côté, le mouvement hippie, voilà, tout cet univers fantasmagorique.
Une chanson particulière, hein, Kelly Watch the Stars, une chanson pop sans couplet-refrain, le vocodeur. Vous n'étiez pas les premiers, il y avait eu Kraftwerk auparavant, sauf que chez eux, le vocodeur donnait un côté très robotique.
Oui.
Mais pas du tout chez vous, c'est un côté beaucoup plus solaire.
Moi, je voulais faire une voix angélique avec. Déjà, on faisait une musique...
Charlie Angels, ouais.
Ouais, surtout, l'idée de R, c'était de faire une musique en apesanteur. Et donc, il fallait des voix célestes et pas du tout des voix liées à la Ruhr. Enfin, la Ruhr, donc
la région, bien sûr, en Allemagne.
De Kraftwerk. Mais alors, cela dit, on est des énormes fans de Kraftwerk. Hein. C'est pratiquement notre groupe préféré au monde avec les Beatles, quoi. C'est dingue, quoi. C'est des dieux vivants pour nous.
Vous avez rencontré,
surtout quand avec le vocodeur, tu peux faire des accords. C'est-à-dire, en fait, il y a un phrasé harmonisé, en fait, qui est chouette à faire. Oui, on les a rencontrés.
Et alors
à Düsseldorf, qu'on a fait leur première partie. Il reste un seul membre original du groupe, dans Kraftwerk. Et j'ai réalisé à quel point le groupe était énorme, parce que à Düsseldorf, on jouait dans un festival et toute l'avenue était...
C'est leur ville en plus, c'est leur ville natale.
Ouais, c'est leur ville natale. L'avenue entière était vraiment remplie de gens jusqu'à perte de vue et c'était fantastique
pour
de jouer.
Pour le départ du Tour de France, on était au Mexique, on faisait un concert et tous nos portables se sont mis à biper. Attention, il faut que vous soyez dans votre loge à 18h. Le management, la maison de disques, le tour manager. Et à 18h, on est dans la loge et on entend frapper. Et là, on ouvre la porte, il y a les quatre Kraftwerk qui rentrent. Et ils nous ont dit « Bonjour, cette année, le Tour de France part à Düsseldorf. Et nous cherchons un groupe français
génial.
Pour le symbole. Pour le tour. Et donc, mais est-ce que vous voudriez faire le concert avec nous ?» Et on a dit oui. Du coup, c'est bien parce que on a vu comment elle travaillait sur scène et en fait il joue beaucoup de choses, c'est incroyable. Donc il y en a un qui fait les mélodies, l'autre les basses, l'autre les nappes et l'autre qui fait les éclairages. Il relève un défi scénique tous les soirs. On a l'impression que c'est enregistré, mais pas du tout. C'est vraiment joué, quoi. C'est incroyable. Et j'ai vu le vocodeur qu'ils utilisent aussi. Donc je ne trahirai pas leur secret.
Un mot tout de suite sur le titre qui a affolé l'Angleterre et le reste du monde, Sexy Boy version inédite.
Sexy boy.
Mais quelle est l'origine de cette version, Jean-Benoît?
Alors ça, c'est avec les Phoenix, hein, si je me trompe pas. Pour une émission, c'était pour l'émission
Juice Holland.
Et disons qu'à l'époque, Phoenix, ils étaient signés aussi dans la même maison de disques que nous. Ils étaient plus jeunes que nous. Et ils faisaient pas trop de live de leur côté, mais nous, on devait faire des lives de télé et on n'avait pas de backing band. Donc du coup, comme c'était nos amis, on leur a demandé de nous accompagner. Et on a fait cette version complètement électronique. Je crois que c'est Thomas, en fait, qui chante à travers un casque qui fait office de micro pour faire des espèces de feedback de voix artificielle. Et voilà, c'était assez fun.
Ouais, je m'en rappelle, on était complètement amateurs. On arrive à Juice WRLD, il y avait Lenny Kravitz, il y avait Blur, non, il y avait Pulp. Et nous, on avait passé l'Eurostar avec la boîte à rythme que tu entends. On n'avait même pas d'étui pour la porter, on la prenait comme ça.
Ah, vous n'avez pas de roadies, rien du tout.
Non. Et même à un moment. Et c'était marrant, le souvenir que j'ai, c'est que la maison disque avait pris 4 chambres pour les Phoenix, parce qu'ils sont 4, et ils ont tous changé les matelas pour se mettre tous dans la même chambre.
C'était, la colo, quoi.
C'était assez marrant, quoi. Mais on a vu tout le showbiz anglais. Mais nous, c'était les débuts, quoi. C'était marrant.
Mais la reconnaissance existait déjà, hein. Je crois que Lenny Kravitz connaissait l'album.
Ouais, oui, l'album était sorti depuis un mois et ça cartonnait.
En fait, on avait fini le morceau et je me souviens, il avait fait la queue pour nous dire bonjour. Il attendait patiemment que d'autres gens nous parlent et puis après, il est venu nous parler. Il a pas du tout, voilà, il faisait la queue tout à fait gentiment.
Mais il est assez sympa, Lenny Kravitz.
Retour aux fondamentaux avec ce qui est devenu votre son iconique de R, une base ronflante avec un son très sec, Sexy Boy. Sur cette basse, parce que là encore, deux légendes urbaines. En tout cas, il y a deux versions. La première, on dit que vous vouliez retrouver le son de la basse sur le Melody Nelson de Serge Gainsbourg et que vous auriez acheté le même modèle. En deux, quelqu'un vous a prêté une basse Hofner des années 60, la basse de Paul McCartney dans les Beatles. Vrai, faux, rien.
Alors, c'est un mélange des deux, parce que la basse de Melody Nelson est très très rare. C'est une Burns Bison de 1962, utilisé par Dave Richmond, et elle est très dure à trouver, surtout que Burns a été racheté par Baldwin après, donc enfin bref, il n'y a eu que 2 années de production. Et j'avais un ami de Versailles, qui s'appelait Nicolas Dufournet, qui était membre du groupe Oui Oui, il était bassiste dans les Oui Oui, un groupe dont Michel Gondry était le batteur. Et il m'a prêté cette basse, qui était une sorte de Hofner violine, basée sur le modèle de Paul McCartney. Et j'ai enregistré les deux basses années 60 de Moon Safari, qui sont La Femme d'Argent et Talisman. Mais sur Sexy Boy, c'est ma précision normale. Et c'est surtout un Moog qui passe dans une talkbox. Donc c'est pas sur ce morceau-là qu'il y a la basse années 60. Mais effectivement, c'était un fantasme, ce son de basse. Ces fameux sons de basse de 69, années érotiques, de Melody Nelson. Et j'ai finalement, des années bien plus tard, j'ai trouvé une de ces basses-là en Australie. Et je l'ai achetée. Et sur les conseils de Fred Palem, c'est lui qui l'avait trouvé en fait et qui m'avait donné le tuyau. Et le problème, c'est qu'une fois que je l'ai acheté, comme un enfant gâté, j'avais plus du tout envie d'enregistrer ce genre de basse. J'étais passé à autre chose.
Je peux imaginer. Oui, Jean-Benoît, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, mais en fait, là, c'est pas le même genre de basse. C'est pas du tout le genre de basse à Melody Nelson ou quoi que ce soit. C'est vraiment une basse.
Rock.
Je crois, ouais, rock, plutôt.
Autre hit, Remember.
Thank you.
version album. Je signale que vous aviez tout enregistré tout seul dans la maison que vous aviez louée à l'époque, mais quand même vous êtes allé enregistrer les cordes de Talisman, de You Make It Easy à Abbey Road avec David Whittaker. David Whittaker qui a aussi enregistré les cordes sur une autre version de Remember. Cette version avec un déluge de cordes, vous ne l'avez retoqué en fait?
Alors là, ça part calme, mais après, quand ça se déchaîne.
Je sais, plus loin, c'est vraiment une furie.
Impossible de le mettre, de le faire rentrer dans le mix. Et du coup, on ne l'a pas mis, mais comme on trouve ça génial, on a fait une version juste la mélodie de voix et les cordes de David. C'est quand même un génie. Alors, c'est aussi l'arrangeur de My Way, c'est comme lui qui a fait les arrangements de My Way, qui est une des chansons les plus connues du monde.
C'était facile de travailler avec Whittaker à Londres?
Oui, très facile. Mais c'est vrai qu'il avait tendance à en mettre beaucoup. Donc du coup, on a dû parfois un petit peu élaguer ce qu'il faisait. Mais c'était un gentleman anglais à l'ancienne. Sa femme nous faisait des gâteaux au chocolat dans le studio.
Formidable.
Donc c'était super sympa.
Un mot encore sur Remember, avec la collaboration d'un pionnier de la musique électronique, Jean-Jacques Perret, qui était dans le coup. Vous resituez pour les auditeurs,
Jean-Jacques Perret, c'est un musicien pionnier de la musique électronique. Il était démonstrateur d'andioline au cinéma Place de Clichy. Là, c'était un pâté, l'énorme truc. Ouais. Et puis alors, il faisait la musique des petits 2 à la télé, les interludes d'Antenne 2 à l'époque, donc l'ancien France 2. Et donc nous, on était familiers de ces musiques, parce que donc en tant que téléspectateurs, et donc on nous a proposé de faire un morceau avec lui. Et quand il est venu à la maison, il a fait écouter ce morceau, c'est lui qui a trouvé le titre, Remember. Et après, on a fait un autre morceau avec lui qui s'appelait Cosmic Burn. Il avait fait un tube qui s'appelait EVA, qui a été samplé par Fight Bus Slim et par un rappeur dont je ne me rappelle plus le nom. Et voilà, et c'était... Alors il est arrivé chez moi et il a dit bonjour au chat. J'ai dit qu'il n'y avait pas de chat. Parce qu'il m'a dit si, je viens de le voir passer. Donc il était un peu comme ça.
Étrange.
Ouais. Il avait compté les marches pour savoir si le nombre était de bon augure ou pas.
Ça, je peux le comprendre.
Ouais, voilà.
Ça fait pareil.
Il y a des tocs.
Il avait des tocs, lui aussi. Voilà. Quel homme parfait.
Et aussi, il nous a raconté que dans les 70, il avait passé un espèce de passage à vide professionnel. Et qu'il est parti avec Jacques Cousteau sur un bateau pour s'occuper d'électronique audio afin de rentrer en communication avec les dauphins. Parce que les dauphins émettent des ondes, en fait, pour communiquer dans l'eau. Et donc lui, en fait, il était rentré en communication avec les dauphins grâce à ses synthés. Et il nous avait dit que c'était un secret, mais que les dauphins étaient beaucoup plus intelligents qu'on ne le pensait. Et qu'ils avaient leur langage et tout ça, et qu'ils avaient même des prénoms et tout ça.
C'était un secret.
C'est un secret.
Un homme formidable. Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel, vous restez avec nous. On a rendez-vous dans quelques instants avec Marion Guilbeault pour Cette année-là, juste après Éloi qui Call Me.
La musique, elle est jamais triste.
Côté.
Bah déjà, c'est un amusement. Hein.
La musique, elle existe ou elle n'est pas.
Sur France Inter.
Je ferme les...
signé Eloi tout de suite. Cette année-là, 1998, c'est Retour vers le futur avec Marion Guilbeault.
Le tempo.
Côté club.
140 BPM.
Côté club.
Et la vie, elle a un tempo.
Sur France Inter.
16 janvier 1998, date de sortie de votre album Moon Safari, l'année vient à peine de commencer. La France n'est pas encore championne du monde de football, les 35 heures ne sont pas encore adoptées par le gouvernement Jospin, Nino Ferrer est encore vivant et Johnny Hallyday n'a pas encore mis le feu au Stade de France. Et avant que des titres comme Sexy Boy gagnent une notoriété méritée, la France est en proie à une confusion musicale sans nom. Ainsi, dans le top français des meilleures ventes de disques, c'est une chanson étrange, un mix entre rap et beurre salé qui va trôné pendant 23 semaines consécutives dans le top 3. Mano avec la tribu de Dana et ce sample de Trimartolo, une chanson traditionnelle bretonne, ce sera le deuxième single le plus vendu en 1998. Victoire de la musique en 99 pour leur album Panique Celtique dans la catégorie rap, groove, no comment. Derrière Mano, une autre surprise, un tube comme seule la France et le Québec peuvent en concevoir ensemble. Ça sent fort la comédie musicale, celle-là se passe en plein cœur de Paris, avec des chanteurs et des chanteuses à voix, c'est la tendance lourde des années 90, avec une invasion de timbres québécois comme ceux de Céline Dion, de Garou et compagnie. Notre-Dame de Paris, Belle, et les voix de Garou, de Daniel Lavoie, de Patrick Fiori, comédie musicale inspirée du roman de Victor Hugo, paroles Luc Plamondon, musique Richard Cochiante, victoire de la chanson de l'année en 99 pour Belle et du spectacle musical. Bon, j'arrête là le massacre, 1998 en France, c'est heureusement aussi la sortie de Fantaisie militaire d'Alain Bachung, son 10e album, un disque de rupture, un long voyage au bout de la nuit, un de ses disques les plus commentés, le plus récompensé, victoire artiste masculin, album de l'année en 99.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Bachung avec La nuit je mens, une des chansons de cet album qui a définitivement changé la face et le son de la chanson en France. 98, c'est aussi l'avènement de la première vague rap avec d'un côté les succès de Ménélik, de Passy, de Stomy Bugsy et de l'autre la consécration de NTM avec leur dernier album studio, Suprême NTM. Et c'est en plein âge d'or du rap français que l'on va commencer à entendre l'expression French Touch. Un terme un peu fourre-tout, utilisé au départ par les médias anglo-saxons pour qualifier une création électronique française foisonnante et très éclectique. Il y a en effet un monde entre les sons de Bob Sinclair, de Laurent Garnier, de Dimitri From Paris, qui jouent déjà dans les clubs de toute la planète. Un monde aussi entre les premiers disques de Saint-Germain, avec la Seed Jazz de Boulevard en 95, de Motorbass avec Pound Soul, en 96, la House filtrée de Daft Punk, suivie par Étienne de Crécy et Super Discount. on l'oublie. Mais au-delà de l'appellation générique French Touch, la dynamique est là, l'émulation aussi, les labels se créent, les soirées suivent, la scène s'organise, mettant la France et Paris au centre de la planète électro. Et un des titres emblématiques de cette fameuse French Touch, qui sera un des tubes conséquents de 98, c'est celui d'un power trio Stardust, composé de Thomas Bangalter, de Benjamin Diamond et d'Alan Brax, un titre qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde dès les premiers mois. Une chanson au titre qui sonne comme une évidence, « Music sounds better with you ». En 1998, alors Mano, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Céline Dion, j'en oublie, c'était vraiment la musique dominante qui occupait les ondes et les bacs des disquaires, parce qu'il y en avait encore en 98. Comment vous regardez aujourd'hui cet environnement musical?
Quand je pense au premier morceau breton, enfin nous aussi on avait un son breton, mais grand breton en fait,
ouais.
De la Grande-Bretagne. Et c'est vrai qu'il y avait l'apparition du rap. En fait, on était signé chez Source, donc du coup, on était déjà en contact avec le rap parce qu'il y avait des
groupes de rap. Les premières compilations.
Ouais, qui étaient signées. Et il y avait les compilations Source Lab dans lesquelles, en fait, les premiers artistes d'électro ont émergé. Et dont Daft Punk, d'ailleurs, qu'on avait rencontré à l'époque. Et c'est vrai que Music Sounds Better With You, ça a été vraiment un gros choc parce que ça a été vraiment rapide. C'était vraiment le morceau qui a posé l'avènement de la French Touch dans le monde entier. Et c'est vrai que le morceau est assez irrésistible au niveau énergie, au niveau dance, au niveau production aussi. Il est vraiment imparable, vraiment.
Un commentaire sur le terme de French Touch. C'était un terme utile, réducteur, idiot?
Non.
Nicolas Baudin.
En fait, on a vraiment une particularité par rapport aux Anglais. Je peux comprendre que pour eux, c'était une autre manière de concevoir la musique, puisque tous les musiciens anglais qu'on connaît commencent par faire une chanson. Mais en fait, nous, les Français, on a un peu explosé tout ça. On s'en bat, comme tu disais, sur Kelly Watch the Stars, tout d'un coup, ou Around the World. On s'en fichait des refrains, des couplets. On est un peu les héritiers de ce qu'on appelle, de ce qu'eux appellent la musique continentale, quand ils parlent des New Morricone, Nino Rota, ou Francis Lai, parce que vraiment les Anglais, enfin tous les musiciens qu'on connaît, hein, je ne parle pas des, enfin je parle de tous les jeunes qui à l'époque faisaient de la musique, qu'on connaissait en Angleterre, quand ils prenaient une guitare ou quoi que ce soit, ou un piano, c'était tout de suite, il fallait faire un couplet, un refrain.
Un format pop.
Ouais, voilà. Et en fait, ils ne comprenaient pas.
Les instrumentaux.
Ouais, mais même ils ne savaient pas faire ça. Et alors, bon. Je considère, enfin moi, mon groupe préféré au monde, c'est les Beatles, et je considère que Paul McCartney, c'est un génie, et c'est le Mozart du XXe siècle. Si vous écoutez le seul instrumental qu'ont fait les Beatles, c'est-à-dire, c'est pas leur truc, ça s'entend tout de suite, c'est Flying, je crois. Et donc voilà, je veux dire, il y a vraiment un fossé, enfin même un canal entre nous et l'Angleterre, et qui sépare les choses en termes de quand des notes arrivent dans notre cerveau, eux, ils vont en faire une chanson. Alors que nous, on va aussi en faire des chansons, mais aussi on entend ces notes, on dit tiens, qu'est-ce qu'elles appellent ces notes-là? Est-ce que c'est une chanson? Est-ce que c'est un instrumental? Qu'est-ce que ces notes me disent? On les laisse libres un peu de s'exprimer. Et ça, c'est une différence. Voilà, donc la French Touch, c'est ça, je dirais.
côté club.
Il y avait même de la musique. De la musique liquide.
Qui chantait ça déjà?
Laurent Goumard.
Star in the Sky, extrait de Moon Safari 1998, votre premier album que vous reprenez sur scène pour ses 25 ans, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel. Au départ, ce devait être une chanson disco, c'est complètement raté.
En fait, on n'arrive pas. Alors moi, dès que c'est pas compliqué, dès que j'ai un problème, quand un morceau marche pas, je divise le tempo par deux et ça marche. Donc comme ça, c'est réglé.
Jean-Benoît, ouais.
Oui, il est passé par des phases étranges, ce morceau. Mais finalement, il s'est beaucoup calmé et puis c'est devenu un morceau extrêmement long. Et c'est un morceau un petit peu méditatif, et New Star in the Sky, ça parle un peu de la naissance d'un enfant.
Votre fascination aussi pour l'astrophysique, les lectures de Ray Bradbury, et puis aussi pour cette chanson. Une émission sans François Hardy est une émission ratée. Est-ce que cette référence fonctionnait pour vous, Jean-Benoît Dunkel ? Fleur de lune, François Hardy.
On était fascinés par François Hardy et d'ailleurs, cette chanson est magnifique. Et on a eu la chance de la rencontrer et ça a été un choc émotionnel aussi pour nous.
Parce vous qu'on avez a fait Jeanne ensemble maison.
Ouais. Ouais. Au temps de Moon Safari. D'ailleurs, on voulait la mettre sur Moon Safari, mais finalement, ça collait pas trop avec le reste.
Elle sortait du lot. C'était bizarre. Elle ne s'intégrait pas au disque.
Vous étiez allé chez elle ?
Ouais, dans la maison, la rue Allée. C'était assez génial. C'était tout noir à l'intérieur, un peu comme chez Gainsbourg. Ça devait être la mode dans les années 70, peut-être d'habitude de Castel, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était génial. Moi, elle est géniale. De toute façon, d'ailleurs, enfin, ça n'a pas pris une ride, ces morceaux. Et on parle de French Touch, mais elle est adulée en Angleterre et aux États-Unis. Hein. C'est vraiment une référence dans la musique française à l'international, quoi.
Elle nous a fait notre thème astral.
Ouais. Et alors ?
Et aussi notre futur astrologique.
Ça a marché ?
Oui, en fait, le mien était absolument apocalyptique.
Oui, elle était assez inquiète pour toi.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle m'a prédit un avenir horrible, hein, et qui est vraiment arrivé. Enfin, émotionnellement, je veux dire.
Ah ouais ?
Amoureusement. Ouais, ouais. Et du coup, voilà. Et, en fait, elle est. Donc, du coup, ça a rajouté à sa. à son, comment dire, son charisme de. Comment, je sais pas comment l'appeler, de divine. Voilà, de.
De prophétesse.
De prophétesse, voilà, je cherchais le mot. Prophétesse.
Et pour vous ?
Moi, ça allait. Et puis même une fois, après, j'étais la voir chez elle encore, elle m'a dit, ah, non mais alors, vraiment, le thème de Jean-Benoît, c'est la catastrophe. donc elle était un peu inquiète.
Quelle horreur.
Pour Jean-Benoît.
Elle avait fait le thème du groupe ?
Ouais, puis de nos enfants aussi, parce que quand mon fils est né, elle m'a envoyé son thème.
Ouais, elle a défini notre trait de personnalité qui était assez juste, qui était même troublant et même déstabilisant en fait.
Mais pour vous, c'était quoi alors, Jean-Benoît ?
En fait, c'était assez vrai. Elle avait révélé un trait de ma personnalité qui était là et ça m'avait assez troublé. En fait, finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu un après. Enfin, ma vie a changé quand je l'ai rencontrée, quoi. En gros.
Elle vous a jeté un sort, en fait.
Oui.
Une dernière question. Vous allez être sur scène. Est-ce qu'il y aura des rappels ?
Bien sûr, oui. Donc, on fait l'album parce que l'album, il fait 45 minutes. Donc, on part pas. 42 minutes, même, je crois.
Vous partez pas au bout de 42 minutes ?
Non, on revient.
Vous êtes inaimable.
Non, quand même.
Et vous revenez avec les titres, notamment du quatrième, puisque c'est les 20 ans aussi
ouais,
de Tokyo Hockey.
Ouais, on en reprend. Mais cela dit, donc, on joue une vingtaine de morceaux en tout, je crois. Mais bon, cela dit, moi, même en tant que public, je suis pas fan des concerts trop longs. Donc là, je crois qu'il y a juste ce qu'il faut.
Pas mieux ?
Il y a des très très beaux rappels et les gens vont être vraiment ravis. On leur sert vraiment le meilleur de R.
Le meilleur de R. Allez, on va se quitter avec Vanessa Paradis qui est venue à la rencontre de Voyou après avoir écouté son dernier album. Une collaboration qui sonne comme une évidence sur le bal.
Dans une
une salle sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ce qui s'efface et ce qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, cent mille âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai, j'ai flanché. On a dansé sous les valses folles
dans cette salle sans issue de secours.
Bruyant, le bal me rappelle à mes amours.
Mon premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai la tête en vol. J'y perdrai la tête en vol, aérer seul sous les valses folles.
Soudain mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée,
me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes, mais souvent les valses s'essoufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin.
Après la valse de Melody Nelson, la valse de Voyou et de Vanessa Paradis. Elle est côté club, fin de partie. C'est le moment des adieux. Merci à vous deux. Merci Jean-Benoît Dunkel. Merci Nicolas Godin.
Merci de nous avoir accueillis.
Moon Safari, c'est la réédition de l'album et puis une tournée internationale. Ça commence samedi à Genève, le 25 à Milan, le 27 à Vienne en Autriche, le 29 Anvers, le 2 mars Berlin, le 7 l'Olympia à Paris. Plein d'autres dates à retrouver sur les internets avec le 24 juin, la Philharmonie retour à Paris. Jean-Benoît, je signale aussi la BO du film de Teddy, Lucie Modeste, Pas de vagues. Ça sortira le 27 mars prochain et l'album piano Paranormal Musicality. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
9 mars 45.
Garde à vous !
Les Japonais ont attaqué sur tout le territoire.
Ils arrivent.
Le film s'appelle Les Derniers Hommes, il est signé David Holofen. La musique s'est superpose, ils seront nos invités demain, avec à leur côté Fred Nefché. Et pour vous Marion ?
Une surprise Laurent.
Ça veut dire qu'elle va bosser toute la nuit, qu'elle n'a pas encore sa chronique. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Guillaume Giraud à la réalisation, la technique ce soir, Manon Houssin. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Touri... Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, Tara Natouri. Et aux playlists, Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée, à demain.
Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui.
C'est tout de suite, bien entendu, tout, c'est...
Club.
C'était quand même génial, quoi.
Bye.
Bye.